RCF.
Le temps de le dire, Antoine Bélier.
Bonjour à tous, invités de l'émission Les 4 vérités sur France 2. En mars dernier, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner avait déclaré alors que depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, 75% des radars avaient été soit détruits, soit détériorés, soit attaqués, soit neutralisés. S'ils sont devenus l'un des symboles de la guerre sociale, c'est qu'ils sont largement considérés par les citoyens davantage comme des machines à cash que comme des moyens de lutter contre l'insécurité routière. Et l'argent ainsi récolté, c'est là où le bât blesse, ne profite pas seulement à l'État mais à l'immobilier. Plus que de raison, certaines entreprises privées, et cela par des marchés publics passés au mépris du droit, sans appel à la concurrence. Depuis 2009, ces contrats s'élèveraient à plus de 2,5 milliards d'euros. C'est ce que nous apprend une équipe de journalistes qui signe un documentaire sur un système opaque dont ils ont réussi à lever une partie du voile.
Jusqu'à 10h, c'est le temps de le dire sur RCF.
Ce documentaire s'appelle « Radar, la machine à cash, scandale et gros profit ». Il sort aujourd'hui à 18h, diffusé en accès libre sur les sites Reflet, Mediapart et Caradisiac. Et il sort le 10 janvier sur Thinkerview.
En 2018, les radars ont rapporté 860 millions d'euros à l'État. C'est la troisième meilleure année depuis leur instauration il y a plus de 15 ans. Et ce, en dépit des dégradations des gilets jaunes. Les radars sont devenus le symbole du ras-le-bol fiscal.
On a marre des taxes.
D'une vie trop chère pour les Français. Le centre de toutes les crispations. Selon le gouvernement, ce vandalisme s'est élevé à plus de 360 millions d'euros. Mais il n'y a pas que cela qui coûte cher aux Français. Derrière ces boîtes grises, ce sont des entreprises privées qui font tourner la boutique. Et l'État n'est pas très regardant sur la facture. Car les radars, ça rapporte.
Ça produit. Mais on ne regarde pas trop si ce produit est au meilleur coût.
La belle et louable volonté politique, sauver des vies, s'est transformée en privatisation sans le dire. Ces gros marchés publics, on n'en parle jamais. Notre enquête va montrer comment les entreprises privées profitent du système. Des marchés publics controversés, des prestations hors de prix, des millions partis en fumée.
Dès l'instant où le matériel entrait dans l'entrepôt d'Atos, il prenait 20%, ben, je leur ai proposé de placer mon argent chez eux. 20%, ça se prend. Hein.
Et alors
ben, ils n'ont pas beaucoup aimé ma plaisanterie.
Des hommes politiques ont participé à certains de ces marchés publics avant de se retrouver à la tête des sociétés bénéficiaires de ces mêmes contrats.
La prise illégale d'intérêt, c'est ça. C'est qu'on a servi l'État, c'est-à-dire qu'on a servi l'intérêt général, on a servi le service public, et puis après, on va servir l'entreprise pour laquelle on était intervenu en tant que représentant de l'État.
Deux informations judiciaires sont ouvertes pour favoritisme et prise illégale d'intérêt.
Et une partie de l'équipe qui a conçu ce documentaire est avec nous ce matin. Stéphanie Fontaine, Jacques Duplessis et Lise Itreux. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, membre du collectif de presse Extramuros. On peut aussi ajouter le nom de l'autre auteur de ce documentaire, Antoine Champagne. On va évoquer les informations que vous avez réussi à obtenir au long de cette enquête passionnante. Et comme chaque matin, les réactions, commentaires et questions de chacun de vous à l'écoute de cette émission sont attendues. Écrivez-nous le temps de le dire @rcf.fr ou appelez dès maintenant le standard du temps de le dire.
Vos questions, commentaires et témoignages au 04 72 38 20 23.
Alors je le disais en introduction, la destruction des radars est devenue ces derniers mois un phénomène. Il s'agit d'un indicateur de la crise sociale que vit actuellement notre pays, Stéphanie Fontaine.
Mais en tout cas, c'est important. On peut pas le nier. Ce vandalisme est vraiment très important. Il est sans précédent. Il y a toujours eu du vandalisme sur les radars dès la première année de leur installation en 2003, fin 2003. Il y a toujours eu du vandalisme. Mais là, effectivement, depuis et ça correspond. Alors. Le gouvernement, bien sûr, l'attribue beaucoup au mouvement des Gilets jaunes. Il avait commencé quand même avant l'apparition du mouvement En fait, il avait commencé dès le début de l'année donc 2018, et je ne sais plus où on en est là, on est en 2019, voilà.
2020 même.
Oui, voilà, c'est ça, on est même en 2020. Mais il avait déjà, il avait commencé dès l'annonce de l'abaissement de la vitesse de 90 à 80 km/h sur le réseau secondaire. Mmh. Mais c'est vrai qu'on a franchi un cap ensuite, à partir de septembre, octobre, novembre, avec le démarrage du mouvement des Gilets jaunes.
Et c'est cela, Jacques Dupelsy, qui a déclenché... J'allais dire, ce projet d'enquête ?
Pas que. C'est-à-dire, on s'est dit, les radars sont dans l'actualité. Voilà, Stéphanie travaillait sur la question de la sécurité routière depuis des années. Donc voilà, on avait à la fois un réseau avec des sources, on avait des informations. Voilà. Et surtout, on s'est aperçu qu'on parle toujours de la sécurité routière, mais on parle jamais de comment ça fonctionne et on parle jamais des marchés publics. Et à chaque fois, on parle des radars à la télé, c'est une machine à cash parce que on paye des amendes, l'État souhaite de l'argent sur notre dos, c'est un impôt qui ne dit pas son nom, voilà, le ras-le-bol fiscal, on fait tout pour piéger les automobilistes, après on monte des avocats, comment contester vos PV. Mais tout ce qui est marché public, on n'en parle jamais. C'est la première fois qu'on va en parler dans un documentaire.
Donc c'est un documentaire qui a demandé, les Itreux, pas mal de préparation. On est vraiment dans ce qu'on appelle de l'investigation.
Oui, tout à fait. On y travaille quand même depuis un an. Donc ça fait un an qu'on prépare ce reportage. C'est vrai qu'on a épluché beaucoup de documents. On a accès à notamment un rapport confidentiel de l'inspection générale de l'administration. Donc oui, c'est un vrai, vrai travail d'investigation avec... beaucoup de documents et de chiffres. Oui. Et ça a été assez difficile, justement, parce que c'est pas un sujet simple, comme disait Jacques, les marchés publics. Et c'est assez difficile à mettre en image, justement, tous ces chiffres.
D'où les nombreuses animations qu'on peut voir dans ce documentaire. Et puis aussi, on en parlait hors antenne avec Jacques Dupelsy, il y a aussi, j'allais dire, une sorte de fil rouge assez marrant qui permet aussi de donner une forme de légèreté à ce documentaire. Jacques Dupelsy.
Oui, alors en fait, on a construit un radar en bois, donc au format du radar, et on a trimballé ce radar un peu partout, voilà, pour le mettre en scène. L'idée, effectivement, comme c'est un sujet qui est quand même aride, la question c'est comment retenir l'attention des gens, avoir des pauses de respiration, voilà. Et donc on a trimballé ce radar dans un caddie, dans le métro, à la Tour Eiffel, dans un confessionnal, on a essayé de le faire parler, voilà, on a mis en scène aussi un peu cet objet radar pour... avoir ces pauses un peu de respiration et mettre un peu d'humour dans un sujet qui est quand même assez rude et aride.
Et faire preuve, vous l'avez dit, Stéphanie Fontaine, vous y êtes employée à faire preuve de pédagogie finalement, parce que le but c'est de transmettre non pas un message mais d'expliquer cette opacité.
Ah bah vraiment, oui, c'était vraiment transmettre une information que finalement on ne traite. On la traite finalement peu aussi en presse écrite, mais alors en vidéo, jamais. Et on le comprend. Nous, on s'est confronté vraiment. Lizzie vient de la télé, enfin vient. Elle est réalisatrice, elle confirmait à la télévision. Elle s'est bien rendue compte de la difficulté de mettre ce sujet en image.
Donc, parce que c'est trop technique. Lisitreux, c'est un sujet très technique.
Parce que c'est pas visuel, il y a le côté technique, beaucoup de chiffres et beaucoup de choses à expliquer au niveau pédagogique, mais après c'est vraiment pas visuel du tout, parce qu'on parle de marché public, c'est très abstrait, c'est très complexe, donc c'est pour ça qu'il y a les infographies et c'est aussi pour ça qu'on s'est aussi mis en scène, nous, dans l'investigation. C'est une part importante du reportage, parce que ça montre l'opacité et puis ça montre aussi comment on fait des enquêtes, etc., et ça apporte un peu d'humain aussi dans un sujet un peu...
C'est ça, c'était difficile de l'incarner. On suivait pas, par exemple, une personne qui est confrontée à des... Enfin voilà, souvent les reportages à la télévision, voilà, quelque part, on suit quelqu'un, donc le spectateur est avec lui, avec cette personne, avec elle. Là, c'était effectivement un peu compliqué, puisque on parle... En fait, l'enquête, c'est surtout quand même là, pour le coup, de la documentation, puisque on a très peu de retours des autorités. D'ailleurs, on n'en a eu aucun, carrément. Et bon, on réussit quand même à interroger des gens, mais on les interroge quelque part. Ils viennent parler du projet radar tel que eux en font la publicité, c'est-à-dire ça a sauvé des vies. Et d'ailleurs, c'est leur seule réponse. Finalement, c'est la seule réponse qu'on obtient.
Oui, c'est récurrent. Hein.
C'est récurrent. Voilà. C'est dès qu'on essaye de creuser un peu, de dire mais quand même, voilà, le rapport de l'inspection générale de l'administration, qui est donc l'organe de contrôle du ministère de l'Intérieur, soulève quand même pas mal de dysfonctionnements. Et puis ça remonte. Alors, c'était encore court, là, ces dernières années, il n'y a pas très longtemps, mais c'était surtout déjà dès les origines du système comme ça. Donc, qu'est-ce que vous avez à répondre? Non, mais écoutez, tout s'est bien passé. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des milliers de morts, de vies sauvées.
C'est ce que dit Claude Guéant, notamment, je crois, Jacques Duplessis, dans le documentaire.
Oui, c'est ça. C'est à chaque fois, que ce soit un des préfets qui était à l'origine du projet, Claude Guéant, qui est dans le documentaire, Rémiette, le procureur de Paris, qui a été délégué à la sécurité routière.
Qui dit pas grand chose d'ailleurs.
Bah non, il dit pas grand chose parce qu'en fait, quand ils se rendent compte, quand tous ces gens, au départ, ils viennent tous pour dire, on a sauvé des vies. Et voilà. Et donc, et après, quand ils se rendent compte qu'on commence à parler marché public, bah là, ils sont quand même très embêtés parce que ils voient qu'on a des documents, on voit qu'on est au courant des dysfonctionnements. Et là, ils sont un peu embêtés. Parce que évidemment, ils cherchent à se protéger et comme il y a deux enquêtes en cours au niveau judiciaire, ils sont quand même bien embêtés.
Alors, on pourrait peut-être préciser aussi que ce documentaire, vous l'avez réalisé, vous l'avez conçu grâce au soutien d'un certain nombre de citoyens. On peut peut-être en dire un mot, puisque vous avez sollicité la générosité des uns et des autres. Et ça montre aussi la difficulté que les journalistes ont de plus en plus de faire de l'investigation. Lisitreux.
Effectivement, donc c'est vrai que le constat de base, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a de moins en moins d'investigations à la télévision. Et donc, du coup, on a choisi vraiment de le diffuser sur Internet et de faire appel aux internautes qui, finalement, se sentent assez concernés par des sujets d'investigation. Donc, on a eu beaucoup de soutien et il est financé de façon indépendante avec un financement participatif, oui.
Jacques Duplessis.
C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a la tête d'affiche Cache Investigation, mais Cache Investigation, c'est un peu le cache-misère de l'investigation, quoi, en fait, à la télé. Et voilà. Et d'ailleurs, quand on a voulu faire ce film à la télé, tout simplement pour avoir les moyens, parce que un documentaire à la télé, en moyenne, avec les aides du Centre National de la Cinématographie, on a à peu près 80 000 euros pour faire un documentaire télé. Donc, c'est-à-dire les moyens de le faire, c'est ce que ça coûte vraiment. Et en fait, à chaque fois, on nous répondait, ah bah c'est pas assez, c'est trop complexe, il y aura pas assez de séquences, enfin voilà. Donc il y a tout un code de la télé qui est difficile. Quand on fait de l'investigation sur des sujets un peu arides, comme on disait.
Stéphanie Fontaine.
Oui, je peux que répéter ce que disent mes petits camarades. C'est vrai que il y a un problème de financement aujourd'hui pour la presse en général et en l'occurrence quand on fait un documentaire vidéo, ça coûte vraiment cher. On s'en est rendu compte. Moi, je reconnais, enfin, Jacques était plutôt réaliste, on va dire, dès le départ sur les projections financières. Moi, je reconnais que je me disais, mais quand même, on va y arriver avec moins, puisque quelque part, on n'est pas une grosse machine, c'est nous, on est en indépendance, en autonomie presque, j'ai envie de dire. Bon, il se trouve que finalement, on a eu beaucoup de soutien, effectivement, de la part, le crowdfunding vraiment a bien fonctionné, mais de fait, le financement n'est pas là, et de notre film. Et pour l'instant, on verra comment ça se passe. C'est compliqué aujourd'hui d'arrêter les comptes, mais c'est un problème de trouver le financement pour cette investigation indépendante en vidéo.
En clair, aujourd'hui, le film, il nous a coûté un peu plus de 70 000 euros et il nous manque 30 000 euros. Quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et où est-ce qu'on rogne? C'est sur les salaires des journalistes. Voilà.
Allez, on va revenir dans quelques minutes sur le sujet de votre documentaire, sur le contenu de ce documentaire qui sort aujourd'hui à partir de 18h sur différents sites, je le disais, sur Reflet, sur Mediapart et également sur Caradisiaque. On se retrouve dans 3 minutes sur RCF.
Get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You get a fast car. I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs and finally see what it means to be living.
man's got a problem. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. So I remember when we were driving, driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged.
Fast Car, c'était Tracy Chapman sur RCF.
Jusqu'à 10h, prenons le temps de le dire sur RCF.
Radar, la machine à cash, scandale et gros profit, c'est le titre du documentaire réalisé par des journalistes du collectif de presse Extramuros qui est diffusé à partir d'aujourd'hui 18h sur les sites Reflet, Mediapart et Caradisiaque. Trois des quatre journalistes qui ont porté ce projet de documentaire sont mes invités en direct jusqu'à 10h, Jacques Duplessis, Stéphanie Fontaine et Lizzie Treux. Alors vous avez réussi à entrer au Centre National de Rennes qui traite toutes les contraventions. Qu'avez-vous découvert? Et vous n'étiez pas seul puisque vous étiez accompagné d'un député bien connu, François Ruffin.
Oui, alors en fait ce qui s'est passé, c'est qu'on souhaitait aussi, pour mettre à l'image la machine à PV, aller au centre de Rennes.
Alors quel est ce centre?
Alors en fait c'est un centre dans lequel tous les PV de tous les radars de France convergent, et aussi les stationnements, mais là on va parler des infractions de la circulation. Mais à ce moment-là, donc les radars quand ils flashent, eh ben, il y a un tuyau informatique qui emmène toutes les informations jusqu'au centre de Rennes. Et là, il y a des énormes imprimantes. Il y a des gens qui valident déjà l'infraction, qui regardent, ils disent, bah, tiens, la plaque est lisible, c'est bon.
Mais c'est un organisme public?
Alors,
privé?
C'est un organisme public, mais qui est géré essentiellement par des privés. C'est ça aussi qu'on voulait montrer. C'est-à-dire qu'il y a 500 personnes à peu près qui travaillent là-bas, et il n'y en a que 100 qui sont des fonctionnaires. Les autres, ce sont que des boîtes privées.
D'accord.
Et donc, on voulait aller là pour montrer un peu comment fonctionnait cette usine à PV. Voilà, c'est impressionnant, c'est des grosses imprimantes, c'est des gens devant des ordinateurs, ils ouvrent les documents, ils voient l'infraction, la plaque, ils valident, et puis derrière, il y a quand même un policier qui fait clic, 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 clic pour valider, mais enfin, et voilà. Et tout ça, c'est surtout des boîtes privées, puis à la fin, il y a un policier qui fait clic, 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 clic.
Et pourquoi vous avez choisi d'être accompagné par un député, bah, Stéphanie Fontaine?
Bah, tout simplement, on n'arrivait pas à avoir l'autorisation d'aller visiter le centre de Rennes. Je pense qu'il n'y a eu aucune équipe de journalistes ces dernières années, vraiment ça remonte à longtemps. Voilà, il y a eu des équipes télé qui ont réussi à rentrer à Rennes, parce qu'il y a un moment donné où c'était un petit peu plus ouvert, il y a eu différentes périodes, mais là, on va dire, ces quatre dernières années, il n'y a personne qui a pu y mettre un pied.
Et, les parlementaires, eux, peuvent accéder à ce genre de centre?
En fait, rien n'oblige à accueillir un parlementaire, mais c'est quand même compliqué de refuser l'entrée au parlementaire. Du coup, on s'est dit, bah, c'est peut-être notre ticket d'entrée, c'est de trouver un parlementaire qui accepterait de nous y conduire. Et c'est comme ça, en fait, François Ruffin, il faut reconnaître, ça a été le premier qu'on a sollicité, parce que tout de suite, on a pensé à François Ruffin, comme ils ne nous répondaient pas, on a sollicité mais plein de parlementaires. Et personne ne nous a répondu. Et pour finir, c'est François Ruffin qui a fini par décrocher et qui a accepté de nous y conduire.
Mais vous n'avez pas pu filmer, hein, Lizitreux.
Impossible d'emmener une caméra, non, ça a été refusé automatiquement. On a été bloqué à l'accueil. Mais heureusement, Jacques a pu se faufiler à l'intérieur.
Mais en fait, il y a eu un quiproquo. C'est-à-dire qu'à l'accueil, ils ont vu les caméras et voilà. Moi, j'avais décidé de coller François Ruffin pour essayer de me faire tout petit. Et en fait, à l'accueil, évidemment, il y a la directrice qui est venue accueillir le député. Et donc, elle a dit, les caméras non, dehors. Et voilà, et donc moi je suis resté. Elle m'a pas demandé qui j'étais, comme j'avais pas de caméra, comme je collais François. Et ben du coup, elle a pensé que j'étais son attaché parlementaire, que j'étais voilà. Et donc ils m'ont donné un badge, voilà, sans me demander qui j'étais.
Donc vous avez pu voir ce qui s'est
passé. Et donc j'ai pu visiter, voilà. Après, ça aurait été intéressant en image, parce que en lui-même, je vais dire le centre de Rennes, ben, bon, on le raconte. Je vais dire, c'est rien d'extraordinaire. Nous, ce qui nous intéressait, c'était l'image de l'intérieur. Mais du coup, ça fait une séquence assez marrante où on se fait virer, où on montre aussi, c'est encore un moyen de montrer l'opacité. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'en permanence, l'État a refusé de répondre à la moindre question. Les mails, même le délégué à la sécurité routière, pour parler sécurité routière, il a finalement refusé de nous parler. Mmh. Donc, on est dans cette opacité organisée par l'État. Et j'ai dire, et ça, c'est anormal. J'ai dire, à un moment, tout ça fonctionne avec de l'argent public. C'est quand même nos impôts qui les payent. Et malgré tout, tout est fait pour organiser l'opacité. Et enfin, même pour les documents. Enfin, l'accès aux documents, Stéphanie est devenue une spécialiste de la CADA, c'est-à-dire de la Cour administrative, pour demander les documents.
La commission d'accès aux documents administratifs, voilà. Avant d'aller devant la justice administrative. Et d'ailleurs, on y est demain, devant la justice administrative, pour récupérer, enfin, espérer de récupérer la copie de certains marchés publics, puisque normalement, il y a une juriste, enfin, je veux dire, c'est vraiment, normalement, un accès complètement libre. Et en fait,
tout citoyen y a accès, normalement?
Normalement, sur les... Enfin, je ne dis pas que tous les documents des marchés publics peuvent être communicables à toute personne qui en fait la demande, mais 90%, je dirais, des documents des marchés publics sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Or, concrètement, là, dès que vous demandez la copie d'un marché public, c'est pas 50% que vous avez, c'est zéro. Mmh. Donc, vous êtes obligé de saisir d'abord la CADA, donc la Commission d'accès aux documents administratifs, comme n'importe quel citoyen, puis que l'avis, elle rend juste un avis, que cet avis soit négatif ou positif. Si vous n'obtenez toujours pas à gain de cause, vous pouvez vous présenter devant la justice administrative, le tribunal administratif.
Et ce qui est intéressant de souligner, parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'en fait, quand on passe devant la CADA, souvent elle dit oui. Mais comme c'est un avis, et l'État n'exécute pas. Et donc, ils savent que soit le journaliste va se lasser, soit en fait, il va aller devant le tribunal administratif. Et là, on est reparti pour un an de procédure, voire plus. Et donc, en fait, tout est fait pour faire en sorte que quand on cherche à enquêter sur quelque chose d'actualité, eh ben quand on a accès aux documents, c'est plus dans l'actualité si on y a accès. Et donc tout est fait pour empêcher l'investigation journalistique. Et c'est ça aujourd'hui qu'on se rend compte que c'est de pire en pire. On nous parle sans cesse de transparence et on nous met sans cesse des bâtons dans les roues.
Allez, je vous propose d'accueillir une première auditrice qui souhaite intervenir dans cette émission. Il s'agit de Corinne qui nous appelle de Douai. Corinne, bonjour.
Oui, bonjour, merci de cette émission. Voilà, ben, je téléphonais parce que j'entends bien les difficultés, là je viens d'entendre la transparence de l'État qui n'existe pas, mais moi je me pose des questions quant aux destructions, en fait. D'accord, on manifeste un mécontentement dans des destructions, et puis il y a eu plein de destructions, même avec les gilets jaunes. Ben, ça a un coût aussi, tout ça. Moi, je me mets pas là en tant qu'arbitre et en tant que... Mais c'est compliqué, comment gérer, comment refinancer. Et c'est vrai que... est-ce que l'État... Quelle est la responsabilité de l'État? Quelle est la responsabilité... Les gens, ils ont une colère, ça, j'entends bien. Mais pourquoi elle se manifeste dans la destruction, dans du vandalisme, quelque part? Et en fin d'analyse, qui est-ce qui en pâtit? C'est la terre, parce qu'il y a beaucoup de matières premières qui sont gaspillées. Et là, on l'entend beaucoup, le côté de réparer la planète et préserver la planète. C'est surtout ça que je voulais dire.
Merci Corinne. Stéphanie Fontaine, vous vouliez réagir à ce qui vient d'être dit? Cette colère, effectivement, sociale, elle s'exprime notamment par des destructions. Bon, on peut dire aussi que l'État instrumentalise parfois ces destructions et finalement masque un peu la réalité aussi.
Mais c'est-à-dire que nous, déjà, le documentaire ne justifie absolument pas les destructions de radars. Enfin, absolument pas. Mais c'est juste que le gaspillage, donc on en parle beaucoup de ce gaspillage finalement d'argent, puisque les radars sont détruits et on s'en prend aux radars et qui coûtent cher, etc. Mais il y a du gaspillage, le gaspillage dont on ne parle jamais. et ça, ça existe depuis l'instauration des radars. C'est finalement donc à l'intérieur de ces marchés publics, de ces contrats qu'on passe avec des entreprises privées et qui finalement on les passe sans contrôle, sans vérification et quelque part le denier public n'est pas, chaque euro dépensé dans le cadre de ce système n'est pas forcément justifié.
Du coup, vous pointez dans ce documentaire, pour être clair, le gaspillage de l'argent public dans ce marché des radars.
Oui, c'est exactement ça. Et je voulais juste compléter ce que disait Stéphanie, c'est-à-dire que en 2018, où il y a eu donc le début du mouvement des Gilets jaunes, la destruction des radars, etc., c'est quand même l'une des meilleures années.
La troisième
meilleure année, en termes de bénéfices, de recettes. Depuis l'instauration des radars il y a 15 ans. Donc, c'est quand même pas négligeable. C'est-à-dire, les radars, ça rapporte beaucoup plus que ça ne coûte. Et les destructions, finalement, par rapport au gaspillage, à la gabegie, c'est... Enfin, je veux dire, il y a un peu de poids de mesure aussi.
Jacques Duplessis.
Je veux dire, il n'y a rien qui justifie les destructions. Mais, je veux dire, nous, on se situe complètement ailleurs. C'est-à-dire que là, on ne parle pas de la question de combien ça rapporte à l'État, de ce qu'on en fait, est-ce que c'est du racket fiscal, est-ce qu'il y a... C'est pas notre sujet, voilà. Notre sujet, c'est vraiment d'aller voir comment le système fonctionne et combien ça coûte aux Français. Voilà. Et là, je crois qu'il faut qu'on commence à rentrer un peu dans les chiffres, qu'on raconte, c'est-à-dire que depuis le début du système... On a l'impression que, c'est un des titres d'un des épisodes, puisque le documentaire peut être visible aussi par épisode, les dés étaient pipés dès le début. Voilà. Et on se rend compte qu'il y a des marchés publics pour le moins bizarres et qu'il y a une organisation bizarre, comment les entreprises ont été choisies au début, et qu'après, on voit aussi que comme ça rapporte beaucoup, comme le dit un ancien procureur de la Cour des comptes qui a travaillé un peu sur les radars, comme ça rapporte beaucoup, le système s'auto-entretient. Et du coup, l'État n'est pas du tout regardant sur la dépense.
Justement, on va parler plus particulièrement de ce point-là, qui, d'une certaine façon, profite cette manne financière. Nous allons en parler juste après cette nouvelle pause. On se retrouve dans une petite minute en direct sur RCF.
Le temps de le dire revient dans un instant. À 13h15 sur RCF, vous avez rendez-vous avec l'histoire. Véronique Alzieu et ses invités vous invitent à revivre une année, un événement, qu'il soit religieux ou historique, sous forme de feuilleton quotidien, créant ainsi une série pleine de rebondissements. La suite de l'histoire, du lundi au vendredi, à 13h15.
Comment devenir libre? Quel est le chemin vers la liberté? La sélection d'émissions de ce nouveau coffret de la boutique RCF vous fait découvrir le chemin parfois escarpé de la liberté intérieure et vous explique que la foi peut être une expérience de libération profonde. Des témoins spirituels, philosophes ou psychiatres vous donnent ainsi des pistes de réflexion sur ce sujet essentiel qu'est la liberté. Pour plus de renseignements et commander le coffret « Devenir libre », appelez le service auditeur au 04 72 38 62 10.
Ça coûte un pognon de dingue. Alors je ne parle pas des prestations sociales comme le laissait entendre il y a quelques mois Emmanuel Macron, mais la mauvaise gestion des marchés publics des radars automatiques, c'est ce que révèle un documentaire en accès libre à partir d'aujourd'hui sur Reflet, Caradisiaque et Mediapart et bientôt sur Thinkerview. 3 des 4 journalistes auteurs de ce documentaire sont avec nous, Jacques Duplessis, Lise Itreux et Stéphanie Fontaine. Alors... j'aimerais quand même qu'on y revienne, même si vous en avez un peu parlé, quelles sont les personnalités politiques que vous avez pu interviewer et comment elles justifient d'une certaine façon cette collusion privée, publique? Stéphanie Fontaine.
Elles justifient pas forcément.
Elles disent qu'il n'y a pas de problème.
Elles disent tout simplement qu'il n'y a pas de problème, que tout a été fait dans les règles. Très sincèrement, je pense que la plupart de nos interlocuteurs d'ailleurs en sont peut-être convaincus. On ne sait pas en fait. Malheureusement, l'opacité reste quand même sur une partie de notre sujet. On peut s'interroger, on peut se demander pourquoi, comment, etc. Donc il y a tout un système qui se met en place. Qui est critiquable, si vous voulez. Mais après, savoir réellement comment ça s'est passé et s'il y avait vraiment de mauvaises intentions au départ.
Mais sur des points précis, par exemple, sur l'attribution de certains marchés publics des radars automatiques, est-ce qu'il y a, oui ou non, eu appel à la concurrence, comme réclame normalement le droit?
Non, justement. Enfin, en l'occurrence, si vous voulez, des marchés publics, il y en a À peu près. Nous, on en a repéré plus d'une centaine. Donc, c'est très compliqué de faire ensuite, de dire, il se passe toujours ci, il se passe toujours ça. Mais, en l'occurrence, ces dernières années, les derniers marchés publics passés pour la fourniture et la maintenance, parce qu'en fait, c'est lié, donc ça veut dire qu'on va aller réparer le radar, qu'on va aller le vérifier, qu'on va aller le nettoyer, etc. Donc, la fourniture et la maintenance des radars, bah, bizarrement, l'État a passé des marchés publics sans appel à concurrence. Et là, c'est vraiment, alors ça c'est quelque chose, moi en tout cas, je n'avais pas vu jusque-là.
Et pour cela, vous avez des témoignages bien, bien concrets.
On a des témoignages en fait bien concrets de, en fait les marchés publics, c'est quand même l'attribution des marchés publics est publique. Donc pour le coup, c'est indiqué dans les documents d'attribution que ça a été passé sans appel à concurrence, puisque les documents, c'est pas toujours le cas, mais en l'occurrence là, ils publient les avis d'attribution. Donc on n'est pas toujours au courant très vite, hein, mais quand même, on finit par être au courant qu'il y a un marché qui a été passé. Et là, on voit, ah bah ça a été, ah bah je l'ai pas vu passer celui-là, le lancement de l'appel d'offres, j'ai pas vu, ah bah c'est normal, il y a pas eu d'appel d'offres.
Et est-ce que c'est confirmé aussi par les acteurs du privé que vous avez pu joindre?
Oui, on a eu des acteurs du privé, par exemple, qui nous disent « mais on savait très bien qu'on aurait le marché avant même la publication du marché ». Voilà, et donc on a des témoins qui nous racontent, on a une entreprise, par exemple, qui nous raconte que une autre entreprise lui a commandé les appareils photo pour les radars, alors que l'appel d'offres n'était pas passé, et qu'ils avaient prévenu que, vu les délais au départ, quand ils ont voulu poser les premiers radars, ça remonte vraiment au tout début, les tout premiers radars, en 2003, il fallait que ce soit posé en décembre 2003. Et en fait, quand ils sont inquiétés de passer les marchés publics, c'était trop tard pour la livraison des appareils photo numériques qui devaient être dans les radars. Et ben, qu'est-ce qu'ils ont fait comme ça pouvait plus rentrer dans les clous juridiques, et ben, ils ont demandé quoi. La société attributaire des radars à l'époque, c'était la SAGEM, et tout le monde dit qu'elle savait qu'elle allait gagner avant même qu'il y ait l'appel d'offres. Et bien, elle a acheté les appareils photo à cette société avant même d'avoir la réponse de l'appel d'offres. Donc en fait, on ne fait pas ça si on ne sait pas qu'on va gagner. Mmh. Et donc on a des témoins, ça c'est au tout début, mais ça va jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que les dysfonctionnements, ils datent du tout début et ils continuent, ils s'étalent jusqu'au dernier marché, notamment relatif par exemple aux voitures radar.
Mais en quoi, excusez-moi, c'est une question peut-être qui va vous paraître simpliste, mais en quoi cette non-mise en concurrence peut être un problème? En quoi, pour les citoyens que nous sommes, ça peut être problématique, les ITRE?
La mise en concurrence, ça permet surtout de faire baisser les prix, c'est-à-dire chaque entreprise fait une offre et l'État peut ensuite choisir quelle est la meilleure entreprise en termes de prix, de prestations, etc. Donc c'est surtout pour permettre de faire des économies d'argent public, finalement, donc c'est indispensable.
Alors on a des messages d'auditeurs, notamment un message de Christophe de Mélan près de Grenoble. Il nous dit ceci: la mortalité routière avait augmenté depuis la destruction des radars automatiques, donc ça reste utile même si il faudrait plus de transparence. Ça me rappelle, nous dit-il, l'écotaxe votée puis abandonnée 2 ans après suite au mouvement des bonnets rouges. C'est regrettable. Et puis ce message d'Hubert de Grenoble: si l'automobiliste français était plus respectueux du code de la route et des limitations de vitesse, il n'y aurait pas besoin de tous ces radars. Des réactions?
Moi, je veux bien, oui, parce que on a l'air de dire qu'effectivement, les radars, forcément, c'est bien ou mal. Enfin, voilà, selon où vous allez, ce sera forcément...
C'est pas le but du documentaire,
encore une fois. Mais ce n'est absolument pas le but du documentaire. Mais encore une fois, on ne fait pas d'évaluation. Donc, on ne peut pas dire c'est mal, c'est bien. On ne fait jamais d'évaluation. Mais je prends souvent cet exemple parce que moi, ça m'avait interpellé. Il y a eu une mission parlementaire sur la sécurité routière en 2011. C'est la dernière année où il y a eu vraiment un gros truc, un gros raout sur la sécurité routière. Et concrètement, ça n'a donné à rien. Mais au cours des débats, il y a eu... les parlementaires ont interrogé mais un nombre incroyable de personnes, et notamment des accidentologues, qui sont pour les radars par principe. Enfin, je veux dire, peut-être pas par principe, mais je veux dire, de base, ils sont pour les radars. Et en particulier, les radars de vitesse. Ils disent, pour eux, vraiment, c'est important. Mais il y avait un accidentologue qui expliquait, parce que les radars, il n'y a pas que des radars de vitesse. Il y a des radars feu rouge, par exemple. Puis aujourd'hui, on veut nous poser pour d'autres infractions aussi. Donc ça va.
Les radars embarqués dans des voitures.
Oui, alors ça,
banalisé.
C'est toujours vitesse, effectivement. Mais voilà. Et l'accidentologue, il dit, bon, quand même, au feu rouge, en fait, moi, en tant qu'accidentologue, je vous le dis, il y a très peu de morts, en fait. Donc. De mettre des radars en tant qu'accidentologue, ça rapporte pas grand-chose, quoi. Voilà, parce que finalement, on va pas beaucoup sauver de vies. Et pourtant, on a passé des marchés, on a fait une dépense publique pour donc poser des radars qui concrètement peut-être ne servent pas à grand chose. En tout cas, pour le savoir, ce serait bien qu'il y ait une évaluation. Eh ben, il devait y avoir une évaluation en 2011. Les parlementaires avaient conclu que ce serait quand même pas mal d'aller voir. Aujourd'hui, les radars feux rouges sont toujours installés. Il n'y a jamais eu aucune évaluation à leur sujet.
Jacques Duplessis.
Et on voit bien que l'accidentologie, c'est quelque chose de complexe. C'est-à-dire, elle baisse aussi parce que les voitures, on est de mieux en mieux protégés, par exemple, dans ces voitures. Il y a des gros progrès techniques, il y a des aides à la conduite, des freinages d'urgence. Voilà, donc, on voit aussi que, par exemple, elle absorbe beaucoup mieux les chocs. Donc, on voit que, de toute façon, dans toute l'Europe, la mortalité automobile baisse. Et tout le monde n'a pas le même réseau de radar qu'en France.
Personne.
Voilà, personne. Donc, la question, c'est, de toute façon, l'accidentologie, le nombre de morts sur les routes aurait baissé, radar ou pas radar.
Donc, ça veut dire que l'argument de la baisse de mortalité, pour les personnes, notamment les politiques que vous avez interviewées, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, les itreux.
On peut dire ça, effectivement. Après...
Nous, on n'a pas enquêté là-dessus. Ouais. Enfin, je veux dire,
ce serait un autre sujet.
Ce serait un autre sujet. On n'est pas en train de dire du tout que les radars ne servent à rien. On n'est pas capable de répondre à cette question. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les politiques, eux, veulent absolument transmettre ce discours, ce message que forcément les radars, c'est bien. Et c'est vrai qu'à partir de là, et bon, ceci dit, il y a quand même eu quelques chercheurs qui ont fait des recherches sur le sujet. Et bon, tout ça semble quand même à dire que les radars de vitesse ont effectivement amélioré la sécurité routière. Mais encore une fois, peut-être qu'on aurait choisi une autre politique. Et comme il y a très peu d'évaluation, si vous voulez, voilà, moi, nous, tout ce qu'on dit, bon, déjà, et d'une, c'est pas notre sujet. Et en plus, quelque part, on n'a de toute façon pas la lumière sur tout ce sujet et qu'on organise cette opacité, ça arrange tout le monde.
Alors, on parlait de personnalité politique. Il y en a une, d'une certaine manière, que vous avez traquée. Le mot est peut-être un peu trop fort. En tout cas, que vous avez tenté d'interviewer, mais vous n'y êtes pas parvenu. C'est Thierry Breton. Pour quelle raison ?
C'est Thierry Breton parce que Thierry Breton a un parcours professionnel qui est lié aussi à l'histoire des radars. C'est-à-dire qu'il se retrouve ministre de l'économie et donc quand il est ministre de l'économie que l'installation, j'allais dire, des radars explose et que également est incorporé dans le traitement automatisé des infractions la question des stationnements, tout ce qui est procès verbal électronique. Voilà, le procès verbal électronique, c'est sous son mandat de ministre. Et en fait, ensuite, par un hasard de circonstances qu'on n'explique pas forcément, il devient président de la société, un an après avoir quitté le ministère, de Atos, donc qui est la société qui, pendant des années, a géré l'intégralité du centre de Rennes. Cette société avait un quasi-monopole sur la gestion des radars. Voilà.
Avait, parce que c'est plus le cas.
Avait, c'est plus le cas depuis, Mais d'ailleurs, c'est à cause, en fait, aussi de ce comportement de cette société qu'il y a eu le rapport de l'inspection générale de l'administration qui est venu interroger le fonctionnement. Voilà. Donc, à un moment, l'État avait fait le choix de travailler essentiellement avec Atos parce que ça les arrangeait d'avoir un interlocuteur unique. Mais il se trouve aussi que le ministre qui a pas mal aidé à faire passer des contrats avec cette société s'est retrouvé après, un peu plus d'un an après, à la tête de la société. Et puis maintenant, bon, il est commissaire européen. Donc c'était un personnage clé qui était en plus sous le feu de l'actualité. Donc on a cherché à l'interviewer, on a contacté Atos.
Vous êtes allé à la Commission européenne.
Et finalement, on a profité d'une de ses apparitions publiques, parce qu'à un moment, on nous a refusé l'accès à des conférences auxquelles il devait aller. Et donc, finalement, on a profité de là où on pouvait être là, c'est-à-dire au moment de son audition devant le Parlement européen.
Et il n'a pas répondu.
Évidemment, il n'a pas répondu. Mais bon, ça fait une séquence.
Autre personne qui n'a pas répondu à vos questions, même si vous avez pu le joindre, c'est Nicolas Sarkozy. Pour quelle raison avez-vous voulu l'interviewer, Stéphanie Fontaine ?
En fait, quand on interroge les gens, c'est vraiment, on sent bien qu'en 2003, quand... En fait, Jacques Chirac, qu'est-ce qu'il dit, Jacques Chirac ? Il dit pas on va mettre des radars automatiques. tactique. Il dit, moi, ma priorité, enfin, l'une de mes priorités, c'est la sécurité routière, l'amélioration de la sécurité routière. Et du coup, derrière, bah, les ministres, et surtout à l'intérieur donc, de ces ministères, eh bien, on va phosphorer, on va se demander qu'est-ce qu'on va sortir du tiroir pour répondre à cette demande de Jacques Chirac. Jacques Chirac, lui, les radars, je sais même pas s'il les voulait vraiment. Enfin, il voulait améliorer la sécurité routière. Et c'est comme ça qu'on sort du tiroir, parce que le projet radar existait déjà, par exemple, sous le précédent gouvernement, c'est-à-dire Jospin. Et donc, ça existait déjà depuis quelques temps. Et puis, personne ne voulait le mettre en place parce que, voilà, c'était pas forcément, a priori, populaire, comme on peut voilà, le remarquer aujourd'hui. Et finalement, c'est... plus que le ministre des Transports à l'époque, qui est quand même encore le chef, on va dire, de la sécurité routière, puisque depuis la sécurité routière est passée, on va dire, sous autorité du ministère de l'Intérieur. Et en l'occurrence, ce passage-là, il s'amorce vraiment
à ce moment-là,
avec Nicolas Sarkozy et surtout son directeur de cabinet, Claude Guéant. Et c'est eux vraiment qui portent et qui font accélérer les choses. C'est-à-dire qu'au départ, il devait y avoir une simple expérimentation, et que ça, Claude Guéant nous l'explique dans notre reportage. Au départ, il devait y avoir qu'une simple petite expérimentation. Mais alors, eux, ils trouvent que vraiment, il faut aller plus vite, etc. Et donc, c'est comme ça que, dès le départ, ils disent, on va en mettre 1000. Quand vous mettez 1000 radars, vu le coût, c'est plus une expérimentation. Vous lancez le système automatisé. Mmh. Et ça a été vraiment une impulsion, certes, de Claude Guéant, mais aussi totalement... voilà, c'est bien sûr, si Nicolas Sarkozy avait dit non, j'ai pas envie, ça n'aurait pas eu lieu.
Allez, au-delà de tout cela, une autre réaction d'un auditeur, Philippe de Lyon. À quand les doubles radars pour les voyous qui accélèrent une fois le radar passé grâce au détecteur de vitesse? Je sais pas si vous
c'est
avez
que des
une
auditeurs
réaction.
En fait qui sont vraiment pour les radars que vous avez.
Ceux qui sont contre, ils peuvent aussi intervenir, bien sûr.
Non, mais c'est pas le débat. Bon, effectivement, mais je crois qu'après, j'allais dire. La voiture, faut faire attention.
Ce que je veux dire, excusez-moi, vous coupez Jacques, mais ça montre aussi que l'argument prôné par un certain nombre de personnes que vous avez interviewées est vraiment audible. C'est-à-dire l'argument de la sécurité routière.
Évidemment, j'allais dire la sécurité routière, c'est une bonne chose. Voilà. Après, j'allais dire le problème, c'est est-ce qu'il faut toujours, le bâton du gendarme pour être raisonnable sur la route, quoi. J'allais dire, je crois que c'est aussi la question de la citoyenneté, d'un comportement citoyen, et que est-ce qu'on a forcément besoin du radar pour être raisonnable? Enfin, voilà, donc ça c'est une autre question, mais j'allais dire, le comportement, de toute façon, à un moment, il y a toujours la responsabilité des gens. On est en voiture, on ne fait pas n'importe quoi. Voilà, donc ça c'est
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'argument, encore une fois, je me répète un peu, mais l'argument de la sécurité routière peut empêcher d'aller creuser plus loin les éventuels problèmes, notamment dans l'attribution des marchés et dans cette opacité que vous dénoncez dans ce documentaire. Voilà, c'est peut-être ça aussi qu'il faut relever.
Oui. Mais il n'empêche que c'est... nous, on sentait bien on avait bien vu que le sujet de la sécurité routière était justement toujours traité de ce point de vue-là. Et comme on était quand même, on avait quand même des informations déjà de base qui étaient quand même très impressionnantes. Enfin, je veux dire, finalement, on n'est pas rentré vraiment dans le. Mais il y a quand même des millions d'euros comme ça qui sont décidés. On a un commissaire, par exemple, qui a travaillé au cœur du système, qui nous explique. Nous, on avait un projet pour l'année. On savait que on devait dépenser à peu près 4 millions d'euros par rapport à ce qu'on devait faire, les urgences, mais aussi voilà, les choses qu'on devait développer, etc. On devait en avoir pour 4 millions d'euros. Finalement, mais sur un potentiel de 11 millions d'euros, parce que comme les radars, ça rapporte, ils ont potentiellement beaucoup d'argent à dépenser. C'est pas 4 millions d'euros qui ont été commandés à l'entreprise, c'est 11 millions. Pourquoi? On ne sait pas. On ne sait pas bien. Et c'est quand même pas normal, quoi. 8 millions d'euros. Enfin, parce que c'était entre 3 et 4, donc voilà.
C'est et Visitreux, finalement, est-ce qu'on sait à qui profite toute cette manne financière? Ce sont finalement les entreprises privées qui empochent tout cela?
C'est un petit peu ce qu'on montre, oui, effectivement. C'est-à-dire que l'argent des radars, déjà, au niveau des caisses, il est censé être remis dans tout ce qui est prévention routière, sécurité routière, etc. Et ensuite, ça nourrit les entreprises privées qui
font... Donc concrètement, c'est un manque à gagner pour la prévention routière? Jacques Duplessis.
Oui, complètement. C'est-à-dire, ce qu'on voit, c'est que l'argent termine dans les actionnaires de ces sociétés. C'est-à-dire, on voit vraiment, clairement, c'est organisé pour faire payer l'État un maximum. Par exemple, on raconte, et c'est dans un rapport de l'Inspection Générale d'Administration, Atos avait été payé 10 millions d'euros pour piloter le projet, c'est-à-dire pour piloter le centre de Rennes, pour piloter les sous-traitants, puisque effectivement, négocier avec des sous-traitants, ça coûte cher, ça prend du temps, donc on est payé pour le pilotage du projet. Et en même temps, on s'aperçoit qu'il prenait des marges sur tous les travaux des sous-traitants. Comme ce n'est pas l'État qui payait des sous-traitants, mais Atos qui payait tout le monde, il prenait des marges sur les sous-traitants. Voilà. Et là, ça, c'est complètement anormal. Et ça, on le montre avec des montants très précis, des documents très précis et des témoignages. Voilà.
Allez, comment assainir le système ? On pourra aussi se poser la question juste après cette nouvelle pause musicale. Restez avec nous sur RCF et continuez à nous envoyer vos messages, le temps de le dire, @rcf.fr. Miss You, c'était The Black Keys sur RCF.
Votre rendez-vous d'actualité du matin, c'est le temps de le dire sur RCF.
Jacques Duplessis, Lise Itreux et Stéphanie Fontaine font partie d'une équipe de 4 journalistes d'investigation qui vient de signer un documentaire qui nous révèle la face cachée du marché public des radars. Radar, la machine à cash, scandale et gros profits qui sort aujourd'hui sur les sites Reflet, Mediapart et Caradisiaque et le 10 janvier sur Thinkerview. On pourra regarder ce documentaire, je crois, ce sera à partir de 18h. Alors, est-ce que l'État, selon vous, est en train de prendre la mesure du problème des conflits d'intérêts que vous dénoncez dans ce documentaire, Stéphanie Fontaine?
Pour partie, les révélations, parce qu'en fait, toute l'histoire par rapport au fonctionnement du centre de Rennes, parce qu'on disait l'État a tout confié à une entreprise, Atos. Alors, l'État a tout confié à une entreprise, le développement et la gestion de la partie informatique des radars. Parce qu'effectivement, en fait, derrière le dispositif qui contrôle les excès de vitesse, c'est surtout une grosse machine, un gros centre informatique, en fait, le système automatisé des infractions. Et derrière, il n'y a pas que les radars, on l'a dit tout à l'heure, il y a le procès-verbal électronique et donc c'est tous les PV, hein. C'est pas que le stationnement, c'est tous les PV.
Non, au-delà de ça.
En l'occurrence, le PV stationnement n'existe plus, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui des forfaits de poste stationnement et ça ne relève plus de la justice pénale. Voilà, et donc ça a changé, mais on va dire toutes les autres, donc les FPS, les nouveaux, on va dire, les quand même, allez, pour faire simple, les nouveaux PV de stationnement, ils passent toujours quand même, ils transitent toujours par Rennes, et ensuite tous les PV, en fait, les PV ne sont plus plus dressés, si vous voulez, manuellement sur des carnets à souche. Ils sont dressés sur des petites tablettes informatiques, tout simplement, des petits smartphones, etc. Et donc, comme ça, c'est le traitement. Si vous voulez, la constatation de l'infraction n'est pas automatisée comme le radar, mais le traitement de l'infraction peut être automatisé. Voilà. Donc c'est pourquoi ce procès-verbal électronique en soi et donc qui a été décidé par Thierry Breton, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en soi quelque part ça optimise quand même le traitement indéniablement de la gestion des procès-verbaux en France.
Et ça rapporte plus quand même. Faut le dire.
Ah, très certainement, ça rapporte plus. Oui, oui, oui.
À l'État. Non, mais,
oui, oui, à l'État. Bah, oui, bah, à partir du moment où le fonctionnement est plus simple, donc et en plus ils sont sans doute capables d'en dresser plus. Donc quelque part, voilà. Bon, mais ça n'a pas, si vous voulez, ça n'a pas changé non plus. C'est surtout dans le traitement, si vous voulez, que ça fait baisser les coûts. Ensuite, faut pas exagérer. Il y en a de toute façon de plus en plus des PV, mais c'est quand même surtout par les radars que vous multipliez le nombre de PV, tout simplement parce que le contrôle est automatisé.
Alors sur la question du conflit d'intérêts, il y a Marguerite de Lyon qui ajoute ceci, les serviteurs de l'État doivent faire en sorte de ne pas rougir de ce qu'ils font, c'est une question de morale.
Mais le problème qu'on voit, qu'on a constaté, alors maintenant il y a des exigences éthiques quand même de plus en plus fortes, mais ce qu'on voit, c'est que là, il n'y a pas que des ministres qui sont partis à la tête d'entreprises qui étaient liées au marché des radars, mais c'est aussi des membres de leur cabinet, c'est aussi des fonctionnaires. Voilà, on a par exemple un ancien gendarme qui raconte « Ah bah alors j'allais prendre ma retraite, donc le 15 février j'ai terminé au ministère et au 1er mars je démarrais chez Sagem à la division radar automatique pour faire le lien avec le ministère. »
Et ça semblait pas poser problème pour lui, hein, Lisitreux, c'est ce qu'on voit là à l'écran.
Oui, pour lui, c'est tout à fait normal. Et effectivement, bon, ça s'est passé il y a quand même quelques années. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui pose beaucoup plus de problèmes au niveau déontologique et ça se fait moins. C'est pour ça que ça passe pas. Concrètement, là, il y a des commissions de transparence.
C'est ça. Donc, il y a des choses qui ont changé.
Il y a des choses qui ont changé.
Il y a des choses qui ont changé, mais enfin, quand on voit le parcours aussi, par exemple, des gens au sein même du gouvernement actuel, c'est-à-dire des liens avec certaines grandes entreprises, et on voit bien que la question des conflits d'intérêts, elle reste encore majeure aujourd'hui. Il y a des choses qui s'améliorent très doucement, mais en fait, les allers-retours publics-privés, à un moment, peuvent poser des problèmes de conflit d'intérêts. On le voit, enfin, dans l'actualité, en permanence.
J'ai l'impression que ça passe plus dans l'opinion publique.
C'est ça, ça passe pas dans l'opinion publique.
Et c'est pour cela
que
ça change.
Toujours.
Oui.
C'est pour cela que
oui,
ça tente à changer.
Voilà.
Certainement.
Oui, je voulais d'ailleurs, au-delà de ce conflit d'intérêts, je voulais revenir sur le fait, est-ce que quand même il y a eu des changements? Donc, effectivement, on parlait d'Atos. Quand même, le fait qu'il y ait eu des révélations, donc ça a commencé dès 2013, le fait qu'il y ait des révélations sur le sujet, qu'il y ait une enquête de l'inspection générale de l'administration, il y a eu quand même un assainissement hein, depuis 2016, donc c'est quand même entre guillemets au temps des marchés publics, on va dire qu'ils sont à peu près de 4 ans, c'est récent si vous voulez, mais quand même, voilà, les derniers marchés, il y a une division, un allotissement comme on dit dans le jargon des marchés, et donc du coup l'État a fait a priori, parce que encore une fois l'opacité du ministère de l'Intérieur ne nous permet pas de faire complètement la lumière, mais si vous voulez, le dernier marché qui a été confié à Atos, le dernier gros marché global, devait coûter, selon l'inspection générale de l'administration, puisque c'était en cours, donc on n'a pas les chiffres au final, on les a bien sûr demandés à l'État, mais on ne les a pas obtenus, mais devait coûter 400 millions d'euros. Si vous faites l'addition de tous les marchés passés à la suite, une dizaine de marchés, on arrive à 144 millions. Donc l'écart paraît tout simplement énorme, et quand bien même il y aurait eu des avenants au cours de ces années, bon, a priori, on reste en dessous des 400 millions.
Jacques Duplessis, vous vouliez intervenir?
Non, ce que je disais, c'est que Stéphanie est très modeste, mais l'inspection générale de l'administration a lancé son rapport parce qu'il y a eu des premières révélations de Stéphanie dans la presse, sur Mediapart et dans l'Express. Et c'est qu'à partir de là, ils se sont dit « Oh là, il y a une journaliste qui s'intéresse à ça et pose beaucoup de questions. Nous, on n'y voit pas clair. Ce serait bien qu'on se renseigne. » Et donc Manuel Valls a demandé à l'inspection générale d'administration d'aller voir ce qui se passait dans ce service.
Et à quel moment l'association anticorruption Anticor a pris aussi le relais d'une certaine manière? C'était récent, Lisitreux?
Parce que c'est vrai que c'est compliqué, mais en gros, c'est en 2015 que En fait, le rapport de l'IGA date de, le fameux rapport dont on parle beaucoup, date de 2014, mais on ne l'obtient pas. On n'arrive pas à l'obtenir. Et c'est au moment où, enfin, on commence à voir des choses dans ce rapport IGA et qu'il y a de nouvelles révélations, que l'association anticorruption s'empare du sujet et dépose plainte. Donc ça, ça remonte à 2015.
Il y a une auditrice ou un auditeur, Dominique à Tours, qui pose la question suivante. Quelles sanctions peut-on envisager envers ces sociétés coupables de conflits d'intérêts?
Ah bah, j'allais dire, aujourd'hui, c'est dans les mains de la justice. Alors, comme on le montre aussi dans le documentaire, il n'y a aucun excès de vitesse judiciaire. J'allais dire, le parquet national financier a pas interrogé les gens. Tous les gens qu'on a interrogés nous disent, nous, on nous a jamais contactés. Voilà, donc maintenant, c'est dans les mains de la justice. Et il y a des choses qui peuvent relever potentiellement du pénal.
Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Peut-être un dernier mot pour terminer. On peut vous aider à contribuer à boucler le financement de votre documentaire, même si, encore une fois, il sort aujourd'hui, mais avec quelques euros à récolter tout de même.
Oui, bah écoutez, si les gens le trouvent bien de participer, il y a toujours une cagnotte en ligne avec des dons déductibles des impôts sur une adresse, je pense qu'il sera sur le site, je la redis, donc c'est OKPAL, OKPAL, /reflet au pluriel, Reflet TV.
Et donc le documentaire Radar, la machine à cash, scandale et gros profit est en accès libre à partir de 18h aujourd'hui sur les sites Reflet, Mediapart et Caradisiaque, et bientôt sur Thinkerview avec un débat qui sera en direct le 10 janvier sur le site Thinkerview. À quelle heure vous le
19h.
19h, c'est noté. Merci à tous d'être venus dans cette émission. Merci.
Merci
à Pierre-Henri Paget pour la réalisation de l'émission.